Chapitre 4 de Jonas, au verset 1, il est dit « Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que tu voulais prévenir en fuyant à Tarsis. C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu te repens du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ressin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ressin. Et le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ressin et le ressin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie ». Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ressin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ressin qui n'a coûté aucune peine et qui n'a pas fait croître et qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Rappeler notre histoire, hein. Jonas reçoit la mission de la part de Dieu pour aller à Ninive, une ville terrible, sanguinaire, pécheresse. Hein. Le péché est monté aux oreilles de Dieu et il doit annoncer à ces gens-là tranquillement que bientôt Dieu va détruire cette ville. Sympa comme mission. Évidemment, Jonas, grand prophète, fidèle, va y aller. Ben non, il va faire comme bien souvent nous, il va fuir hein, le plus loin possible pour ne pas aller obéir à Dieu. Mais Dieu, lui, sait nous rattraper quand nous fuyons bien souvent ce qu'il nous demande. Et grâce à un poisson, après 3 jours de méditation en Méditerranée, on pourrait dire, après 3 jours de réflexion, de repentance peut-être, le Seigneur l'envoie une deuxième fois et finalement, peut-être à grand étonnement de Jonas, eh ben, Ninive va se repentir, du plus petit au plus grand. Évidemment, on pourrait terminer l'histoire comme ça. Hein, on aurait dit la Bible, ah, c'est formidable, c'est extraordinaire. Mais il y a un quatrième chapitre et c'est là où j'aime beaucoup Jonas parce que Dieu aurait pu très bien dire on s'arrête au chapitre 3, voilà, il y a une belle conversion de la part de Ninive. Mais en fait, il va continuer et va montrer la réalité de qui nous sommes hein, en tant qu'hommes. Et là, il va surtout parler de Jonas. Hein. La Bible est un livre vrai. C'est pas un conte de fées, hein. C'est ça qui est bien. Elle nous dit la réalité de l'homme en particulier et aussi la réalité de Dieu. Et elle nous rappelle surtout notre véritable nature en tant qu'homme. Et combien, c'est ce qu'on va voir avec Jonas, on a besoin d'être transformé. Quelqu'un qui a besoin d'être transformé ici ou vous êtes tous devenus parfaits déjà ? Personne, hein ? Vous me rassurez parce que sinon moi je m'inquiéterais. Hein. Est-ce que vous acceptez d'être transformé par Dieu ? Oui, là, oui, hein, mais demain matin, quand on va falloir vraiment passer aux choses sérieuses, c'est pas toujours aussi simple. Hein. On est plein d'énergie, mais bon, changer, c'est difficile, très difficile. On va voir ça avec Jonas. On va voir 3 choses. Hein. D'abord, que Jonas refuse le plan et le caractère de Dieu, catégoriquement. Hein. Deuxième chose, c'est qu'il y a des conséquences à tout cela, quand on refuse le plan de Dieu. Une troisième chose, c'est qu'on va voir que le plan de Dieu a plusieurs objectifs, en fait. Donc, Jonas, lui, au lieu de se réjouir de la conversion de Ninive, puis il a la réaction carrément inverse. Il est dégoûté. Il refuse le plan de Dieu et quelque part, il refuse aussi le caractère de Dieu. Et il s'irrite, hein, il est dit au début du texte, une irritation terrible. Parce qu'on va chercher un peu dans l'hébreu, hein, chara, déjà le mot est assez fort, c'est un mot qui est apparenté en araméen avec allumer un feu. Alors les flambeaux vont peut-être pouvoir vous aider à comprendre ça. Hein. Mais il y a un feu qui s'est allumé dans son cœur. Dans l'arabe, le mot, il est apparenté un peu à une sensation brûlante dans la gorge. Il était vraiment, mais vraiment, pas content de ce qui se passait à Ninive. Hein. Il aurait vraiment voulu que Dieu détruise cette ville. Il était irrité. C'est justifié comme irritation ? Ben non. Il n'avait pas à être irrité. Mais lui, s'irrite, il est irrité face à la miséricorde de Dieu, face à la compassion de Dieu. Ça l'énerve. C'est bizarre, hein. Quand on y réfléchit, c'est un prophète, hein, n'oublions pas. C'est un prophète, quelqu'un qui servait normalement Dieu. Là où nous, on se réjouit de voir Ninive se repentir, accepter, hein, et sans savoir même si elle allait être préservée, on avait dit ça la dernière fois, ben lui, il déprime. Un peu comme si quelqu'un venait de se convertir, et vous le regardez, vous dites « Oh purée, ça me saoule ». C'est ça, en fait, hein, quelque part. Lui, il a carrément l'effet inverse. Hein, il déprime, c'est peut-être son orgueil aussi qui est derrière. Et il va s'irriter contre Dieu, parce qu'en fait, ses aspirations personnelles, hein, ben voilà, Dieu ne les a pas écoutées. Moi, je voulais certaines choses, ben Dieu n'a pas fait ce que je voulais. On est souvent comme ça, hein. On lui ressemble, un peu, quelque part. Hein. On peut se poser la question, pourquoi Jonas s'irrite à ce moment-là, et pourquoi il voulait que Ninive soit détruite, hein, tant de haine, quelque part. Alors, il y a plusieurs commentaires, plusieurs, hein, il y en a qui pensent qu'il était xénophobe, mais pourtant, bon, c'est vrai qu'il y a eu souvent lutte entre les païens et les juifs, et les juifs étaient un peuple particulier, donc attention, hein. Mais il avait quand même sauvé les païens, les marins, à l'époque, quand il était sur la mer, hein, il a permis qu'ils soient sauvés. Donc, par vengeance, peut-être, c'est vrai que les Assyriens ont fait souvent du tort à Israël, mais bon, il y avait quand même des temps de paix, donc est-ce que c'était une vengeance qu'il aurait voulu là? Opportunisme, enfin l'ennemi d'Israël détruite, une fois pour toutes. Ça aurait été une bonne occasion. Hein. Si Dieu vous propose à un moment de détruire votre ennemi au boulot, là, celui qui vous embête tous les jours, que vous dites, chouette, non? Au fond du cœur, allez, soyons honnêtes, hein, si on pouvait s'en débarrasser, on s'en débarrasserait. Peut-être par égoïsme aussi, hein, de voir Dieu offrir sa compassion à d'autres qu'à des Juifs, parce qu'il y a cet aspect-là aussi, et puis par, évidemment, justice humaine, hein, lui penser que ces hommes sanguinaires, meurtriers, méritaient évidemment de mourir. Voilà un peu l'idée qu'il a peut-être de cette ville, mais elle n'est pas justifiée. Enfin, ses excuses ne sont pas justifiées. Mais au fond, il est en train de refuser la personnalité de Dieu. Il est un peu paradoxal parce qu'il parle de Dieu comme étant un Dieu compatissant, miséricordieux, un Dieu qui aime ceux qui sont dans la détresse, et en même temps, il refuse. Il fait une confession de foi, mais il refuse en fait qui est Dieu. Cette compassion qu'il a eue pour Ninive. Il est curieux, notre bonhomme, quand même. Hein. Il est paradoxal. Il reconnaît qui est Dieu, mais ne veut pas que Dieu soit comme ça avec certaines personnes. Bizarre. On voit aussi que Dieu est lent à la colère. Hein. Il le dit, il le reconnaît. Et heureusement qu'aujourd'hui, Dieu est encore lent à la colère, parce que je ne sais pas où on serait si le Seigneur venait aujourd'hui. Il y aurait peu de gens qui pourraient être sauvés. Il est riche en bonté, dit encore Jonas. Plein de grâce, de miséricorde, de bienveillance, de bonté et d'amour. Et il se repent du mal qu'il allait faire, non pas que Dieu s'est trompé dans son plan, hein, mais au contraire, c'est toujours le plan de Dieu, mais là, il se retient. Si vous connaissez un peu l'histoire de Ninive, 100 ans plus tard, Dieu ne se retiendra pas, et peut-être qu'on va étudier Nahum, qui parle justement de la destruction de Ninive. Donc ils ont eu une chance quand même, à ce moment-là, énorme. Et c'est la même chose aujourd'hui, hein. Beaucoup de gens ont la chance de rencontrer le Seigneur, et beaucoup, évidemment, la refusent. Nous, on sait qui est Dieu, enfin, à peu près, hein, de ce qu'on a pu apprendre de la Bible, mais comme Jonas, parfois, on peut refuser tout simplement sa personnalité. On sait qui est Dieu, on sait qu'il est plein de miséricorde, on sait qu'il est plein de compassion, mais alors avec lui, ça va pas, c'est mon pire ennemi. Pourquoi Dieu serait gentil avec mon collègue qui m'embête tous les jours? Vous avez des collègues qui vous embêtent tous les jours? On avait un super à l'époque. Ben alors, il me le disait en face, hein, je t'aime pas. Passé 10 ans avec lui, hein, quand même. Mais bon, c'était là pour ma sanctification, je crois, pour que j'apprenne. Mais des fois, je ne comprenais pas. Mais en général, et là, je dirais peut-être même des fois, les chrétiens, on s'invente un Dieu. Parce qu'on ne prend pas le temps de lire la Bible. Parce qu'on ne connaît pas réellement Dieu. Hein? Dieu, c'est qui? On peut le connaître que dans la parole de Dieu. Et plus je connais la parole de Dieu, plus je peux réaliser qui est Dieu. Mais si je connais que le psaume 23... L'Éternel est mon berger, et c'est tout. Plus je vais lire la Bible, plus je vais connaître qui est Dieu. Et dans beaucoup de cas, et même chez les chrétiens, on ne connaît pas réellement Dieu. Ou une toute petite facette, et dans les moments difficiles, ben, on ne profite pas en fait de tout ce qu'il peut faire pour nous. Et ça, c'est bien dommage. Hein. Bon, Jonas, je pense qu'il connaissait un peu plus le caractère de Dieu et la personne de Dieu, mais lui, quelque part, ben, ça le dérangeait qu'il soit plein d'amour et de compassion pour ses Ninivites. Pourtant, on avait vu la semaine dernière que autant Dieu a de la miséricorde pour Ninive, autant il fait miséricorde à Jonas. Alors, il veut bien la miséricorde de Dieu pour lui, mais pas pour les autres. On est comme ça aussi. Hein. On veut que Dieu me bénisse, hein, d'abord. On se compare aux autres, mais moi d'abord. On est curieux. Jonas, lui, voulait un autre scénario. Hein. Comme on l'a dit, il pensait être la justice incarnée et sa justice à lui n'a pas été appliquée sur Ninive. Et c'est pour ça, certainement, qu'il est en colère. Moi, je vois un peu taper des pieds là et faire un petit caprice. Hein. Oui, c'est à peu près ça. Hein. Comme Dieu n'a pas fait ce que Jonas voulait, on répète, comme Dieu n'a pas fait ce que Jonas voulait, alors il s'irrite. Hein. On croit parfois tout savoir. Et je suis sûr que vous êtes un peu comme moi. Des fois, on dit à Dieu comment il faut faire. Parce que des fois que Dieu ne saurait pas comment faire. Hein. On n'est pas comme ça des fois dans nos prières. Seigneur, je vois bien les choses dans ce plan-là. Hein, A, B, C, et puis on lui dit comment il faut aller. Et bien souvent, ben, Dieu ne fait pas forcément comme nous on veut. Hein. Il y a une histoire comme ça d'un conducteur qui était un peu trop sûr. Hein. Un jour, un homme au volant de sa voiture, cherchant sa route, écoutait la radio. Elle signalait qu'un véhicule venait de prendre l'autoroute à contresens et semait une panique effroyable. L'homme dans la voiture, avec un rictus moqueur, pensait tout haut et se disait en lui-même: ces journalistes sont vraiment des menteurs. Ici, c'est tous les véhicules qui roulent à contresens. Nous pensons tous être dans le bon chemin. Nous pensons tous savoir dire à Dieu comment il faut faire les choses. Des fois même, on dit à Dieu, tu te trompes. Tu te trompes. Et pourtant, c'est nous qui nous trompons. Hein. Et on agit comme Jonas. Et j'aime beaucoup ce livre parce qu'il me rappelle moi, tout simplement, et la réalité de ma personne. J'agis souvent comme Jonas, hein. Nous voulons donner à Dieu des ordres, faire ce que nous avons décidé parce que nous pensons que c'est bien pour nous. Et on veut surtout que tout se passe bien. Vous aimez bien les épreuves ? Généralement, quand vous priez, vous ne demandez pas au Seigneur « Envoie-moi des épreuves ou des difficultés ». Enfin, à moins que vous soyez un peu maso, mais... Hein. Généralement, on demande que tout se passe bien. Et si on pouvait avoir une vie, là, un fleuve tranquille, là, jusqu'au bout de notre vie, vous êtes d'accord ?
Oui.
Ouais. Mais moi, je vous dis que dans 5 ans, vous ne serez plus là. Parce que tout ira tellement bien qu'on n'a plus besoin de Dieu. Et vous n'aurez pas grandi avec le Seigneur non plus. Nous, on a nos désirs, mais Dieu a les siens. Et dans son amour, il pourrait faire que tout se passe bien. Mais il veut qu'on grandisse, qu'on apprenne à le connaître, qu'on change. Comme Jonas, hein, qu'on découvre nos défauts pour pouvoir les changer. Parce que si on restait avec nos défauts et qu'on reste dans l'église, ben, ça risque d'être un sacré bazar à la fin, si on ne change pas. Alors évidemment, souvent, c'est des bazars quand même. Mais le Seigneur veut nous changer, veut nous transformer. On accepte Jésus à la croix, c'est une chose, mais ce n'est pas fini l'aventure, hein. Au contraire. C'est maintenant que les choses sérieuses vont se passer et où Dieu va nous transformer. Et vous savez, quand on se laisse transformer par Dieu, on est de plus en plus heureux. Parce que Jonas, vous croyez qu'il était heureux à ce moment-là ? Avec la haine, la colère, l'irritation qu'il avait, à mon avis, il ne devait pas bien dormir. Hein. Mais heureusement que Dieu va travailler ce cœur si dur. Refuser la personnalité, le plan de Dieu, conduit souvent l'homme à s'irriter et on voit même jusqu'à la mort des fois. Les gens sont prêts à mourir plutôt que fléchir le genou devant Dieu, comme Jonas. Alors j'ai dit, une deuxième chose qu'on voit, c'est que si je m'irrite contre le plan de Dieu, il y a des conséquences derrière. C'est obligatoire. Alors quand on voit l'aboutissement de l'irritation de Jonas, hein, il y a une espèce de bras de fer là, qui se fait entre Jonas et Dieu, comme si nous... On pouvait monter au ciel et commencer à dire « je vais me battre contre Dieu ». Ça paraît fou comme ça, impossible même. Et pourtant, croyez-moi, on le fait plus souvent qu'on le croit. Vous n'êtes jamais battu contre Dieu ? À la Jacob, hein, parce qu'au moment où il me casse la hanche, parce qu'il y en a marre. On se bat bien souvent contre Dieu, on ne le réalise peut-être pas. Ah oui. Mais le bras de fer continue entre Jonas et Dieu, et là, Jonas est prêt à aller jusqu'à la mort. Là, il change un peu de stratégie. Avant, il avait fui, maintenant, il change de stratégie. Peut-être qu'il veut toucher le point sensible de Dieu, la compassion. Et en demandant la mort, évidemment, il croit qu'il fait mal à Dieu. Il est vraiment marrant, ce monsieur, mais bon. Hein, pourquoi tu as compassion pour Ninive ? Alors, hein, voilà, moi j'ai mal, mais toi tu as compassion pour Ninive, mais pour moi... Pas de compassion, quoi. Quand je te pose des questions, quand je te demande des choses, t'as aucune compassion pour moi. Il est jaloux, en fait, tout simplement, de Ninive, quelque part. Et il demande la mort à Dieu, puisque c'est la seule solution. Hein. C'est vrai que quand tout va mal, la mort, c'est souvent la meilleure des solutions, c'est ça ? Quand Dieu veut nous changer, quand il veut nous transformer, bah, bien souvent, on préfère fuir. Et il y en a qui vont encore plus loin, ils préfèrent même mourir, comme Jonas, plutôt que d'accepter le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'on est dur. Qu'est-ce qu'on est dur parfois, non ? Il n'y a que moi qui suis dur comme ça ? Ouais. On est tous comme cela. Hein. On préfère fuir, on est même prêt à mourir, à tout lâcher, plutôt que d'accepter le plan de Dieu pour moi. Quelque part, Jonas se venge en demandant la mort. Hein. Il cherche à blesser Dieu comme Dieu est en train de le blesser, le pauvre. Et c'est ce qu'on fait des fois. Hein. Fuite et désir hein, de mourir cachent souvent un problème avec Dieu. Si j'ai des problèmes dans ma vie chrétienne, si je déprime, si j'ai plus envie d'aller à l'église, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème, au fond. Hein. Quelqu'un écrivait « Un chrétien en crise n'est pas un chrétien en Christ. » Un chrétien en crise n'est pas un chrétien en Christ. C'est Satan qui l'engage à tout lâcher, à démissionner, à sombrer dans la dépression. Des milliers de personnes sont aujourd'hui victimes de ce mal qui les plonge dans l'angoisse et dans un sentiment de culpabilité qui les fait ployer sous le poids des accusations et des fausses persuasions. Et vous croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui sont dans la dépression, même chez les chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de lutter contre Dieu. Alors il y a peut-être d'autres raisons, évidemment, mais bien souvent, ces gens-là luttent contre Dieu. Je connaissais une dame comme ça, elle avait perdu son fils, mais elle voulait lutter contre le diable. Hein, quelque part, elle lutte contre Dieu, là aussi. Il y a des gens qui à un moment, lâchent tout, hein, et vont commencer à lutter contre Dieu. Alors ça, c'est peut-être extrême, mais au quotidien, quand Dieu veut me transformer, quand Dieu veut me faire servir dans l'Église, quand Dieu veut m'apprendre à lire la parole de Dieu, enfin sa parole, quand Dieu veut m'apprendre à prier, tous les jours, je dis oui, allègrement. C'est non, d'accord. On ne dit pas forcément oui tout le temps. C'est dur de prendre du temps pour prier. Je lutte contre ce que Dieu veut pour moi. C'est dur de servir. Je lutte contre Dieu. On croit qu'il faut des extrêmes des fois pour dire je lutte contre Dieu, mais Dieu voudrait faire tellement de choses dans ma vie et bien souvent je lutte contre lui dans les petites choses, dans les petits détails. Et moi j'aime Dieu là-dedans dedans, parce que moi Jonas je l'aurais pris, je l'aurais étranglé, je l'aurais jeté quelque part hein, parce qu'il m'aurait énervé. Bon, ça c'est ma réaction, heureusement que c'est pas moi. Mais Dieu lui pose une simple question. Hein. Nous on a des grands psychologues aujourd'hui, il faut 6 mois pour essayer d'aider la personne. Lui il dit, fais-tu bien t'irriter ? Question simple qui touche juste là où il faut hein, et qui démontre le vrai problème. Hein. J'aime beaucoup le livre de Jonas parce que c'est des petites phrases comme ça que Dieu adresse à l'homme, hein, c'est pareil pour Ninive, au lieu de faire des longs dialogues. Mais ça démontre que Dieu voit Jonas dans ses difficultés. C'est ça qui est formidable. Hein. La question montre que Dieu s'intéresse à son problème. Moi j'ai dit je l'étranglerai, mais Dieu lui s'approche avec plein d'amour de Jonas. Et il invite Jonas au dialogue. Il veut qu'il se mette à réfléchir sur sa condition. Quand on est parti dans l'irritation, qu'on est en plein dans l'orgueil, on n'arrive pas tout seul à émerger. Quelqu'un nous arrête bien souvent. Et là, la question devrait normalement stopper net Jonas et inviter un dialogue entre lui et Jonas et avec Dieu. Peut-être Dieu nous pose des fois cette question, hein, est-ce que je fais bien aussi de m'irriter ? Est-ce que je fais bien de désobéir ? Est-ce que je fais bien je ne sais pas quoi ? Est-ce que vous entendez cette petite question de temps en temps, au travers de la lecture de la Bible ? Est-ce que je fais bien dans telle situation ? Et Jonas, évidemment, hein, toujours aussi dur qu'il est, va réagir envers l'amour de Dieu. Là, c'est non-verbal aussi, comme la fuite. Hein. Jonas ne parle pas beaucoup à Dieu, hein, il réagit. Voilà. Il y en a qui crient des fois contre Dieu, ben lui, il réagit. Et puis, il va construire une cabane, une tente. Et là, on aura peut-être besoin des flambeaux. Je ne sais pas s'il connaissait les flambeaux à l'époque. Hein. Mais il va construire cette petite cabane, cette tente, et... En fait, sa mission était finie. Hein. Bon, voilà, Dieu a pardonné à Ninive et Jonas aurait dû simplement rentrer chez lui. Mission finie, mission achevée. Lui, il va planter sa cabane. Il veut voir ce qui va arriver à la ville. Mais Dieu a dit qu'il allait épargner. On se souvient bien. Mais lui, il va s'asseoir pour voir si Dieu, peut-être, après sa petite crise de nerfs, là, va changer d'attitude vis-à-vis de la ville, hein, des fois qu'il ferait quelque chose. Et donc il va s'installer à l'orient de la ville, alors selon certains commentaires, hein, Ninive est située dans la plaine de Mésopotamie, je ne sais pas si vous voyez à peu près où c'est, hein, au pied des hauts plateaux perses qui s'élèvent à l'est de la ville, donc l'est, là où il va s'installer, la localité qu'offrait donc à Jonas une position surélevée, hein, une espèce de bon poste d'observation pour voir si Dieu ne changerait pas d'avis. En fait, il attend que Dieu change d'avis. Il croit que plus il va s'irriter, plus il va s'enorgueillir, et peut-être qu'à un moment, Dieu sera fatigué et va l'écouter. Jonas s'obstine visiblement, et c'est vraiment le reflet de son cœur et de son orgueil le plus profond. Quelqu'un écrivait « En Dieu, vous vous heurtez à quelque chose qui, à tout égard, vous est incommensurablement supérieur. » Si vous ne reconnaissez pas Dieu sous cet aspect, conscient que vous n'êtes rien en comparaison, il vous reste inconnu. Aussi longtemps que vous persistez dans votre orgueil, vous ne pouvez connaître Dieu. Un orgueilleux abaisse toujours son regard sur les choses et les êtres, et bien entendu, aussi longtemps que vous regardez vers le bas, vous ne sauriez voir ce qui est au-dessus de vous. C.S. Lewis, hein, pour ceux qui connaissent, qui a écrit ça. Il disait encore autre chose. L'orgueil implique toujours l'inimitié. Il est l'inimitié. Non seulement l'animosité entre l'homme et l'homme, mais l'hostilité aussi à l'égard de Dieu. Voilà ce qu'est l'orgueil. Ne pas savoir lever la tête, ne pas savoir après qui je lutte, hein, parce que Dieu est infiniment plus grand que moi, et s'il fallait faire une comparaison, on serait ridicule à côté de lui. Et pourtant, petit bonhomme que je suis prêt à monter au ciel, à me battre contre Dieu souvent. On est terrible. Et ça, c'est mon cœur, c'est mon orgueil qui est capable, des fois, de faire ces choses-là. Il faut du temps pour changer. Il faut beaucoup de temps pour apprendre à changer. Donc, on croit pouvoir lutter contre Dieu bien souvent. Et en fait, quand on est en train de lutter contre Dieu, Dieu, dans son amour, non seulement nous pose des questions toutes simples, mais il est en train de commencer à préparer, à nous changer. C'est ça qui est formidable. Hein. Nous, on lutte, on croit qu'on va gagner. Et en fait, Dieu est en train de me transformer tout doucement. Et ce qu'il va faire avec Jonas. Et je l'ai dit tout à l'heure, le plan de Dieu a un double objectif souvent, ou peut-être même un triple. Hein. On se fixe souvent que sur une seule chose, alors que Dieu travaille avec tout le monde en même temps. Dans cette église, il travaille avec chacun d'entre nous en même temps. Hein. Alors, je ne sais pas comment il fait, un grand mathématicien à mon avis, moi j'y comprends rien, mais il est capable de travailler avec moi pour travailler avec quelqu'un d'autre, etc. Il a un plan pour cette église, mais il a un plan pour chaque personne aussi dans cette église. Et il a un plan déjà pour des gens qui sont à l'extérieur et qui un jour, peut-être grâce au flambeau, vont venir ici dans cette église. Il faut avoir conscience de cela aussi. Alors on l'a dit, Dieu a démontré de la miséricorde pour Jonas. C'était la mission que Jonas voyait là. Hein. Une miséricorde dispensée par les soins de Dieu. Mais il a démontré de l'amour pour Ninive, et là, il va démontrer de l'amour pour Jonas. Alors, on se souvient, Jonas s'installe dans sa cabane. Il est irrité, il n'est pas content de ce que Dieu fait, et Dieu lui offre un ricin, un petit arbrisseau là, qui pousse afin de protéger Jonas du soleil. Moi, je n'aurais pas fait ça. J'aurais dit, Jonas, dégage. Tu commences à m'énerver, là. Et Dieu, dans son amour, est en train de lui donner une protection. C'est un exemple peut-être pour nous, avec les gens qui nous irritent des fois. Hein. Comment on va réagir? Est-ce que je vais foncer dedans? Ou est-ce que je vais lui démontrer de l'amour comme Dieu est en train de le faire à ce moment-là? Dieu veut en fait enlever l'irritation de Jonas. Il fait des choses, des fois qu'on ne voit pas, hélas. Hein. Et nous, en fait, on refuse l'aide de Dieu, bien souvent. Il veut nous faire du bien et on n'en veut pas. Et peut-être, là, c'est moi qui pense, peut-être Jonas se dit, tiens, je suis là installé, j'attends de voir si Dieu va changer. Et en plus, Dieu fait pousser ce ricin, ça veut dire que je suis dans la bonne voie. Dieu me bénit. Alors qu'il est carrément à l'opposé. Hein. Je crois que des fois, on dit Dieu me bénit, alors que je suis en train de désobéir complètement. C'est pas parce qu'on reçoit des choses qu'on est béni. C'est pas parce qu'on est riche qu'on est béni. Les gens pauvres sont beaucoup plus bénis. Attention à notre manière d'interpréter ce que Dieu aussi, des fois, est en train de faire dans notre vie. Puis Dieu va détruire ce ricin pour donner une leçon à Jonas. Hein. Il envoie dans la nuit un ver pour ronger le ricin. Et là, Jonas est là maintenant sans protection. En fait, Dieu est en train d'appliquer la théologie de Jonas à Jonas. Jonas n'a pas de compassion pour Ninive, n'a pas de compassion pour le pécheur. Mais pourquoi Dieu aurait de la compassion pour ce ricin qui est en train de faire du bien à Jonas? Il fait simplement ce que Jonas fait ou voudrait faire. C'est intéressant qu'on y réfléchisse. Il veut lui montrer, lui ouvrir les yeux, lui montrer qu'il n'a absolument aucune compassion. Eh bien, tiens, je vais te montrer ce que c'est que de ne pas avoir de compassion avec toi. Très bonne manière de faire, je trouve. Enfin, bon, c'est Dieu qui l'a fait. Hein. Et en même temps, il illustre sa bonté, parce qu'on l'avait dit la semaine dernière, que avant que Dieu produise un jugement, il prend toujours le temps de nous prévenir. Hein. Avant que des gens partent pour l'enfer, hélas, Dieu a pris le temps de prévenir, d'offrir sa grâce. C'est leur choix à un moment. Ils vont refuser cette grâce, ok, c'est votre choix. Ou quand peut-être Dieu vient plusieurs fois vouloir nous changer, nous transformer pour grandir, et qu'on dit non, 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 à un moment, petit croche-pied, mais il m'aura prévenu quand même avant. Heureusement que Dieu est comme cela, hein, qu'il ne punit pas sans prévenir. Vous imaginez où on serait? Ça fait peur, moi, à y réfléchir. Mais là, Dieu a démontré sa bonté vis-à-vis de Jonas, mais il démontre aussi son jugement en même temps. Et puis, pour vraiment lui faire comprendre, Dieu envoie un vent chaud d'Orient. Alors j'imagine la chaleur que ça devait faire. Hein. Et quelque part, il va montrer à Jonas jusqu'où va son orgueil. Jusqu'où va son orgueil. Le vent frappe Jonas, me dit la Bible, et lui, je suis fort. Et le vent souffle, et lui s'obstine au point de tomber en défaillance. Cœur de l'homme, la réalité du cœur de l'homme, jusqu'où on peut aller parfois pour lutter contre Dieu. L'orgueil est prêt à mourir, l'orgueil est prêt à ne pas fléchir le genou devant Dieu. Dur, on est dur d'être, très dur. Et d'une certaine manière, il est carrément en train de défier Dieu là. Voilà, c'est un face-à-face maintenant qui commence avec Dieu. Il aurait pu se repentir, mais lui, au lieu de se repentir, ben, il préfère demander la mort. Beaucoup de gens vont peut-être aller loin de Dieu parce qu'ils n'ont pas voulu se repentir. Prendre le temps de réfléchir sur leur personne, de réfléchir qu'ils sont pécheurs, d'accepter qu'ils sont pécheurs, d'accepter la sentence de Dieu qui est juste à l'égard du péché, mais en même temps le cadeau qu'il offre à cette sentence, c'est la grâce de Dieu. Et tous les gens qui seront en enfer, c'est des gens qui n'ont pas voulu se repentir, tout simplement, ne pas accepter un peu là l'image de Jonas, qu'ils étaient réellement devant Dieu et qui étaient Dieu. Triste, quand on y réfléchit. Dieu nous envoie parfois des leçons aussi, hein. Des épreuves, d'une manière ou d'une autre, des choses difficiles à vivre, parce qu'il veut nous transformer, mais bien souvent dans l'épreuve, la première chose qu'on fait, on dit « oui ». Vous dites « oui » quand il y a une épreuve qui arrive, tout le temps. « Ouais, chouette, allez, je suis malade, ouais ». On dit « non, on ne veut pas perdre son emploi, on ne veut pas être malade ». On ne veut pas qu'il arrive un décès, on ne veut pas qu'il arrive quoi que ce soit dans ma vie parce qu'on veut être bien. Et souvent, c'est l'épreuve que Dieu nous envoie parce qu'il a des choses à nous apprendre pendant ce temps-là. Mais nous sommes des Jonas et bien souvent, on fuit bien loin. Alors avec le temps, on apprend à dire un demi-oui. Hein. Il faut beaucoup de temps quand même. Hein. Ça va être un mouais, mouais. Bon, allez, on y va. Et avec beaucoup, beaucoup de temps, hein, je pense à Moïse par exemple, mais il a passé quand même 80 ans avant de commencer à servir Dieu. Vous voyez le temps qu'il faut pour transformer un cœur. Après, on va commencer à dire oui, parce qu'en regardant en arrière, on se rend compte que effectivement, ok, Dieu va me porter, Dieu m'a aidé jusqu'à présent, je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas cette fois. Mais ce n'est pas évident, et Dieu le sait. Dieu n'a jamais dit à Jonas, tu fais mal, hein. Il comprend que ce n'est pas évident, et il fait tout pour l'emmener avec lui dans ces moments-là. Il fait une espèce de parallèle là entre Ninive et le ricin, le Seigneur. Hein, et une deuxième fois, il pose la question, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» La première fois, il a posé la question, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et il repose la même question, mais il rajoute, en fait, l'image qu'il veut démontrer là au travers du ricin. Et Jonas, de dire, ça fait deux fois quand même que Dieu lui parle, il dit quoi ?« Ok, maintenant j'arrête, c'est ça ?» « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Il y en a un gamin hein, qui fait un caprice. Il a toujours rien compris. Il s'obstine encore plus profondément. Il est culotté quand même. Il est culotté. Alors, c'est facile de juger comme ça en regardant. Hein, parce qu'on est bien comme ça souvent, mais il est quand même culotté. Et il est conscient de ce qu'il est en train de dire à Dieu. Hein. Il le défie pleinement. Un peu comme si Dieu avait mal fait son boulot. Ça vous est déjà arrivé de dire au Seigneur, tu as mal fait ton travail? Je suis sûr. Parce que je le fais aussi. Hein. Parce que ce n'est pas comme ça que je voulais. Alors on croit que Dieu s'est trompé, Dieu a mal fait les choses. Et finalement, au bout, avec le recul, on se rend compte que, heureusement, qu'il a fait les choses comme ça. Dieu nous a refusé des choses, peut-être dans notre vie. Quand on sera au ciel, moi je lui poserai beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions à lui poser. Et peut-être que là, je vais être vraiment étonné et dire « Heureusement qu'il n'a pas écouté ce que je lui demandais à ce moment-là. » Parce que je crois qu'on va être vraiment surpris, surpris. Et on voit aussi là que quand Jonas demande la mort plusieurs fois, ben Dieu ne lui accorde pas. Il n'y a pas d'euthanasie pour Dieu. Hein. Dieu ne lui accorde pas la mort. De toute façon, ce serait contraire, évidemment, à Dieu. Mais il y a une leçon de psychologie hein, là-dedans de la part de Dieu. Et il montre son amour en disant « Fais-tu bien ?» Il lui pose la question, mais en même temps, il est en train de le corriger. Il corrige son enfant. Il veut qu'il change d'attitude. Dieu n'est pas en train de crier sur Jonas. Il n'est pas en train de le punir comme nous, on le ferait, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'étrangle, hein, vite fait. Mais lui, Dieu reste calme, ne crie pas, ne punit pas, mais il cherche à faire réfléchir tout simplement son serviteur. C'est pour moi toute une leçon. On pourrait faire tout un message là-dessus. Comment aider son prochain, comment aider son ennemi, comment aller vers lui. Et là, il y a un exemple de la part de Dieu qui est extraordinaire pour la gestion des crises, etc. Mais Jonas doit changer profondément et durant cette mission que Dieu lui avait confiée. D'abord, Jonas va devoir apprendre la compassion de Dieu, la réelle compassion de Dieu et la justice de Dieu. Il n'est pas d'accord avec toi. Mais il dit, Dieu dit, si toi tu as pitié d'un essaim, petit végétal, là, de rien du tout, comment lui, Dieu, n'aurait pas compassion de Ninive, de 120 000 hommes. Alors il faut multiplier par plusieurs, parce qu'il y a les enfants, il y a les femmes, on ne comptait pas de cette manière à ce moment-là. Il y avait 600 000 personnes environ dans cette ville. Autant Jonas a pitié de cette petite plante de rien du tout qui ne lui a rien coûté, par contre il n'a pas pitié de 600 000 personnes. Il est grave quand même qu'on y réfléchit. On est aussi grave comme ça des fois dans notre vie. Et tout ça, c'est l'orgueil évidemment qui est derrière. Il est égoïste à un point qu'on ne peut pas comprendre. Mais cette mission que Dieu a envoyée à Jonas, d'abord, c'était pour Ninive, parce que Ninive devait changer d'attitude. Et Jonas va découvrir que c'est possible que les gens les pires de ce monde puissent se repentir. Mais en même temps, Dieu voulait montrer le véritable caractère de Jonas. Dieu nous envoie des fois servir, mais en même temps, il va nous montrer qui on est réellement. Deux plans. Un plan pour Ninive et un plan pour me transformer moi. C'est intéressant, ça. Quelqu'un disait, en parlant de la répréhension, il dit, il ne faut pas casser les vitres, mais il faut bien les nettoyer. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Moi, j'aurais cassé Jonas, parce qu'il me saoulait. Mais Dieu, lui, préfère nettoyer plutôt que casser. Il est patient. Et bien souvent, Dieu pourrait, allez Emmanuel, tu me saoules, on dégage ça, vite fait. Il pourrait, il a les moyens de le faire, mais il préfère être patient avec moi et nettoyer tout doucement ce cœur qui est plein de péchés encore et qu'il veut transformer. Quelqu'un parlait aussi, en parlant de cette sanctification que Dieu veut faire dans notre vie, un groupe de touristes découvrait la ville de Londres et on les conduisait dans un atelier de sculpture. L'un des visiteurs demanda à un ouvrier qui travaillait une tête de lion, « Est-ce difficile de sculpter un lion ?»« Oh non, » répondit-il malicieusement, « il s'agit simplement d'enlever tout ce qui ne ressemble pas à un lion. » Application, « Est-ce difficile d'être un vrai chrétien ?»« Non, il s'agit simplement d'enlever tout ce qui ne ressemble pas à un chrétien. » Mensonge, impureté, compromis, mondanité, etc. etc. C'est pas difficile quand on y réfléchit d'être un bon chrétien. Seulement, il faut écarter beaucoup de choses d'abord. Et je pense que c'est ce que Dieu était en train de faire avec Jonas à ce moment-là. Il l'a missionné pour qu'un peuple se repente, mais en même temps, il était en train de travailler dans la personnalité de Jonas. Dieu ne nous place pas au hasard. Des fois, on se dit, on est au boulot, j'aimerais bien être ailleurs. Moi, mon lieu de travail, pendant plus de, je ne sais plus combien d'années d'ailleurs, je crois que c'était le meilleur endroit pour apprendre à devenir pasteur. Et je suis reconnaissant. Au départ, je criais après Dieu, j'en ai marre de passer le balai, passer des choses comme ça, parce que moi j'étais un grand artiste peintre, attention. Alors allez passer le balai après, je vous dis que ça vous calme dans votre orgueil. Et il a fait exprès, évidemment, comme Jonas, qu'est-ce que tu fais avec moi, je suis converti, Mais au fur et à mesure, j'ai découvert que c'était très bien d'avoir fait comme cela. Ça m'a appris à faire les petites choses, parce qu'on aime bien faire les grandes d'abord. Quelqu'un disait, on ne peut pas être pasteur si on ne sait pas passer le balai. C'est vrai. On commence par les petites choses. Et après, on va grandir au fur et à mesure. Et dans mon travail, le Seigneur a mis des étapes pour que j'apprenne à gérer, à calmer mes colères. J'étais pas parfait. Je suis toujours pas parfait, d'ailleurs, mais bon. Mais là où vous êtes, c'est ça qui est intéressant, pas qu'au travail, dans la famille ou ailleurs, c'est votre lieu de formation. Pour Jonas, c'était Ninive. Pour moi, c'est là où je suis. Et des fois, on aimerait fuir ces lieux de formation. Et Dieu fait exprès qu'on reste là. Parce qu'il y a un collègue qui va vous embêter et qui va tout faire pour vous énerver, et vous allez apprendre la patience. Pas comme moi, étrangler, parce qu'au début, j'avais envie d'étrangler, au fur et à mesure, j'ai commencé à demander pardon à cette personne. On change, et Dieu veut nous changer. Et il faut accepter cette formation. Parce que sinon, eh ben, à l'image de Jonas, on va s'obstiner. J'étais comme ça au début, hein. Mais après, j'ai compris que Dieu est en train de faire quelque chose dans ma vie, de me former tout simplement. On ne devient pas tous pasteurs, hein, mais on est tous appelés à être formés en tant que chrétiens. On est tous appelés à être chrétiens, dans le sens générique du terme, mais aussi dans la profondeur de la sanctification et de ce que Dieu veut pour nous. Hein. Et Dieu veut nous former. Et Dieu permettra des difficultés, pas parce qu'il nous embête, pas parce que ça lui fait plaisir, mais parce qu'il veut qu'on change tout simplement nos défauts, parce qu'il veut qu'on enlève nos faiblesses, parce qu'il veut qu'on devienne tout simplement plus fort, et surtout parce qu'il veut qu'on soit à son service comme il faudrait. Donc Dieu ne fait rien au hasard. Vous saviez ? La prochaine fois que vous aurez une épreuve, peut-être pas par hasard, il y a quelque chose là. Alors on ne sait pas sur le moment. C'est vrai que des fois, un petit SMS avec « voilà pourquoi, où tu vas aller », ça me ferait un peu plaisir, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais Dieu permet ces moments-là pour que l'on change et qu'on soit transformé. Et croyez-moi, ce n'est pas quand tout va bien qu'on peut être transformé. Ce n'est pas quand on n'est pas dans des situations qu'on va découvrir qui on est réellement. Souvent, on se sent gentil, sage, mais comme je dis souvent, hein, s'il y avait une guerre aujourd'hui et que quelqu'un venait tuer ma femme, je vous garantis que le gars a intérêt à courir très vite. Normalement, je suis censé lui pardonner. Ah oui. Alors aujourd'hui, tout va bien parce qu'il n'y a pas trop de difficultés autour de moi, mais hein, qui sait ce qui sommeille en moi ? J'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin d'être sanctifié par le Seigneur. Et Dieu, lui, dans sa grande sagesse, alors là, on a juste une petite bribe de ce qu'il est en train de faire, mais il est en train de mêler cette miséricorde pour Ninive, et en même temps, il fait la formation de Jonas et lui apprend ce qu'est réellement la miséricorde. Et quand on essaie de s'élever un peu plus haut, il fait exactement la même chose avec tout le monde en même temps. Ça donne le vertige quand on y réfléchit, hein, qui est réellement Dieu, et la grandeur de Dieu et son amour pour nous. Pour conclure un peu ce livre, hein, quelques petites leçons. D'abord, Jonas, c'est une histoire vraie. La prochaine fois que vous êtes peut-être en colère, irrité, etc., ben, allez relire Jonas. Ça vous fera un petit miroir. Hein. Ah tiens, il me ressemble quelque part. Mais Jonas, c'est une histoire vraie, et j'aime beaucoup cela. Elle démontre qui est réellement l'homme et la femme, évidemment. Hein. Il montre comment est notre cœur, et tout particulièrement dans la relation avec Dieu. Quand tout va bien avec ce qui est autour de nous, ma relation avec Dieu, soi-disant, va bien. Mais quand les choses se gâtent autour de moi, d'un seul coup, ma relation avec Dieu change. Hein ? Là, je deviens un peu plus sévère avec Dieu. Je deviens un peu plus violent avec Dieu. Et Jonas nous montre qui on est réellement. Il ne faut pas s'arrêter un jour en se disant « ça y est, j'ai fini le travail de sanctification dans ma vie. C'est fait. Je suis parfait. » Tu as déjà dit ça un jour ? J'espère que non, parce que... Attention, parce que Dieu, il est derrière. Mais voilà, Dieu veut nous montrer parfois qui nous sommes réellement. Et laissons-le faire dans notre vie. C'est pas agréable de se dire « tiens, oui, je suis un orgueilleux, je suis un menteur, je ne sais pas ce qu'on peut bien être. » Mais il faut accepter quand Dieu nous le révèle. Et changer, justement, parce que là, il est en train de vouloir me changer, me transformer à son image. Alors, la fin du livre s'arrête un peu net, hein, parce qu'on ne sait pas ce que Jonas va faire, ce qu'il va rester là jusqu'à mourir. Il aura peut-être 200 ans devant Ninive, là. Peut-être qu'il y a une statue aujourd'hui, je ne sais pas. On ne sait pas, mais on espère, en tout cas, qu'il a pris la miséricorde de Dieu. En tout cas, pour nous, j'espère aussi qu'on a appris la miséricorde de Dieu. Et tous les gens qui sont autour de moi, ceux qui sont mauvais, soi-disant, ceux qui ne méritent pas d'être sauvés, parce que nous jugeons aussi, il ne faut pas croire, hein, méritent la miséricorde de Dieu, méritent d'être sauvés. Hein. Ça nous apprend à ne pas juger notre prochain, ce livre-là aussi. Et que chacun peut être sauvé, après c'est évidemment son choix. En même temps, Dieu nous veut à notre service aujourd'hui, et un peu à l'image de Jonas, est-ce qu'on est prêt à le servir ou est-ce qu'on est prêt à le fuir plutôt ? Il y a des choses à faire dans l'Église. Il y a du travail. Mille et une manières de travailler. Mais quand on parle du service, quand on appelle au service, est-ce que je fuis, comme Jonas, ou est-ce que je dis oui, qu'est-ce que je peux faire ? Hein ? Parce que souvent, on ne sait pas quoi faire. Ben, venez me voir. On va prier. On va prendre le temps. Hein, on n'est pas pressé. Mais si je suis disposé à servir, je vais faire le pas. Mais si je n'ai pas envie, je vais plutôt fuir. Mais le Seigneur va vous rattraper. Hein. On l'avait dit la dernière fois, on croit qu'on peut fuir Dieu, mais au bout, c'est quand même Dieu qui gagne. Donc, autant s'éviter les inconvénients. Mais est-ce que je suis disponible pour Dieu ? Sommes-nous de ceux qui jugent le pécheur aussi, le monde, ou plutôt ceux qui ont un fardeau pour ces pécheurs ? On peut regarder le monde en le jugeant, ou on peut le regarder comme un fardeau, avec le désir qu'il soit sauvé. Imaginez l'histoire de Jonas qui dit « Oui, je vais à la Ninive, oui, je vais annoncer le jugement », et qui se réjouissent au bout parce que tous ces gens s'étaient convertis. Là, on aurait dit qu'il avait un fardeau pour le pécheur. Bon, heureusement que Dieu nous laisse pour notre exemple aujourd'hui. Mais est-ce qu'on regarde le monde en le jugeant, ou est-ce qu'on le porte comme un fardeau tous les jours dans la prière pour dire à Dieu, ils ont besoin d'être sauvés aussi. Cette histoire nous apprend aussi que dans tous les cas, quelles que soient les situations, Dieu nous rattrapera. On peut fuir loin, y aller jusqu'à Tarsis, jusqu'en Espagne. On peut aller au bout de la terre, Dieu me rattrapera. Je peux m'enfoncer dans mon orgueil, je peux dire non, Dieu me rattrapera. Alors moi, je suis un peu pragmatique. Je me dis que s'il me rattrape, autant y aller, se laisser faire tout de suite, non ? On gagne du temps un peu, et puis surtout, on va moins s'irriter, on va moins se faire du mal. Mais si on a ça une fois dans la tête, vraiment planté, je crois qu'on va avancer plus vite. Au lieu de toujours fuir, ça sent, il va me rattraper. Et au bout, de toute façon, je serai devant lui. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire ? On est coincé, en fait. Heureusement qu'on est coincé. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait ? Mais quand j'ai besoin de changer, quand je suis dans l'épreuve, quand j'ai besoin de servir, plutôt que de s'obstiner à dire non, vous avez déjà perdu, ça sert à rien. Autant dire oui, et puis partir là un peu, on ne sait pas où, mais dire oui tout simplement, et puis Dieu, je crois, vous accompagnera jusqu'au bout de ce qu'il veut pour chacun d'entre vous. Et non seulement il va nous rattraper, mais en même temps il va nous transformer. Dans 10 ans, j'aimerais qu'on revienne là et qu'on se dise, tiens, qu'est-ce qui a changé en moi depuis 10 ans ? Si vous ne me dites rien, ça ferait de la peine un peu quelque part. Normalement, tous les jours, Dieu veut nous transformer. Alors évidemment, ça ne se fait pas forcément qu'au travers de l'épreuve. La Bible. Lire la Bible, je crois qu'il n'y a pas meilleur moyen pour être transformé au quotidien. Parce que chaque jour, je suis sûr, vous tombez sur quelque chose. Ça, c'est pour moi. Il faut que je change. Et si vous vous laissez transformer déjà simplement comme ça, c'est formidable. Et après, Dieu aussi a d'autres plans pour chacun d'entre nous, pour cette transformation en profondeur. Le livre de Jonas, pour moi en tout cas, enfin, j'espère pour vous aussi, mais me donne envie de proclamer tout simplement la miséricorde et l'amour de Dieu pour le pécheur. C'est le thème central de Jonas, c'est qu'on puisse avoir un cœur pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur et que nous puissions annoncer tout simplement la miséricorde de Dieu. On va prier. Seigneur, merci pour le livre de Jonas, pour sa réalité. Tu laisses là le portrait d'un homme qui nous ressemble tellement, Seigneur, plein d'orgueil, prêt à ne pas servir, Seigneur, paresseux et peut-être même xénophobe, enfin on ne sait pas, mais Seigneur, une réalité que l'on rencontre tous les jours dans notre vie, évidemment. Mais tu as démontré aussi tout l'amour que tu avais pour le pécheur et le pire des pécheurs, mais aussi pour celui qui se dit serviteur et qui, des fois, s'obstine contre toi. Seigneur, quand on mesure cette miséricorde, quand on mesure cet amour, nous avons vraiment le vertige. Et merci de nous aimer de cette manière-là. Merci de nous aimer chaque jour de cet amour-là. Parce que tu sais que nous avons du mal à changer, que nous avons du mal à avancer. Mais tu vas nous aider, Seigneur. Et cet amour nous donne des ailes. Cet amour va nous pousser à aller de l'avant. Brise notre cœur, Seigneur, parce qu'il a vraiment besoin de l'être bien souvent. Non pas pour nous faire du tort, mais parce que, au fond, tu nous feras du bien. Apprends-nous à dire oui à ta mission, apprends-nous à dire oui dans notre vie et que nous puissions être totalement transformés. Non pas le faire juste pour nous-mêmes, mais parce que tu as tout donné à la croix pour chacun d'entre nous et nous voulons être tout simplement reconnaissants en nous laissant transformer pour ta gloire, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.